Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans quelques semaines, le 29 mai, sera célébré le bicentenaire de la mort de Joséphine de Beauharnais. Franck Ferrand avait dit qu'il n'en reparlerait pas, mais c'est plus fort que lui. Bonjour Franck.
Eh oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Il est vrai que nous avons consacré déjà 2 émissions à Joséphine au cours de l'année passée. Ça va donc faire 3 avec celle d'aujourd'hui. Mais comment voulez-vous passer sous silence un bicentenaire aussi retentissant? C'est exactement ce que me disait Philippe Séguy, auteur du journal de Joséphine B, impératrice. Il est avec nous pour évoquer la belle Ilienne.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Florian, s'il nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission. Florian voudrait savoir depuis quand les messieurs portent des cravates.
Eh bien depuis l'arrivée en France des mercenaires croates, cravates. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça. Pour le moment, nous sommes attendus du côté de la Malmaison. Allez, en route.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand.
J'ai tenté ma chance. Puisqu'il était prévu de consacrer une émission à Joséphine, pourquoi ne pas essayer, me suis-je dit, d'obtenir une audience auprès de l'impératrice douairière, duchesse de Navarre. Alors je me suis adressé, ça sert d'avoir des relations, directement au grand maître de sa maison. Il m'a été répondu que Sa Majesté était en voyage du côté de Genève, mais qu'en son absence, les portes de la Malmaison nous seraient ouvertes sans réserve. Vous imaginez si j'ai sauté sur l'occasion. J'ai donc été reçu, figurez-vous, par la garde d'Atour, Madame Mallet, et 2 des 4 dames noires, comme on appelle ici les femmes de garde-robe, par opposition aux dames rouges, qui sont des dames d'honneur en charge des annonces. Vous savez que l'impératrice tient beaucoup à ce qu'on annonce les gens en leur donnant leurs titres, etc. Et donc elle a des dames rouges pour faire cela. Elles ont bien voulu, ces dames noires, me décrire à quoi ressemble une journée de l'impératrice douairière, titrée donc duchesse de Navarre depuis son divorce avec l'empereur. D'abord un bain quotidien, me dit-on, qui se prolonge en une longue toilette au cours de laquelle il est possible aux visiteurs annoncés d'approcher l'impératrice et de lui parler, ce que j'aurais adoré faire, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Il n'est pas rare que Joséphine passe 3 heures à sa toilette, ce qui paraît moins étonnant lorsqu'on vous montre les 1000 et 1000 crèmes et pommades, les eaux odorantes de Portugal, de Naples, de Cologne, de Cassis Double ou d'élixirs balsamiques qui s'alignent sur ses étagères. On sait qu'elle fait une consommation extravagante de rouge pour les joues. D'ailleurs, l'empereur tenait beaucoup à cela et lorsqu'il lui arrivait d'arriver un peu pâle, il lui disait « Allons madame, allez vous remettre un peu de rouge ». Rien que pour l'année 1808, 3348 francs de rouge, ce qui est une somme absolument vertigineuse. Et encore, je n'ai relevé là que les factures de 2 parfumeurs sur les 4 accrédités auprès de l'impératrice. Et puis il y a aussi le blanc qui a tendance à s'écailler un peu en fin de soirée. « Voyez, j'ai mes farines », dit l'impératrice lorsque ça commence à retomber un peu sur les vêtements. Tous les 15 jours, moyennant des gages de 1200 francs par an, un pédicure allemand, figurez-vous, monsieur Tobias Kvink, vient s'occuper des pieds de l'ex-impératrice. Il exerce sa charge en habit brodé, l'épée au côté, ce qui évidemment dans sa charge n'est pas toujours très commode, ça raye un peu les parquets parfois. Passons donc sur les pas de mesdemoiselles Aubert et d'Avrillon, qui nous en font les honneurs, dans la garde-robe de Joséphine. Si j'en crois ces dames, et accessoirement si j'en crois André Castelot, qui confirme tout cela, depuis 1810, l'impératrice douairière possède 399 chemises brodées et rebrodées, dont elle change plusieurs fois par jour, comme le confirme le carnet de la blanchisseuse, Madame Babin. Par exemple, pour la semaine du 25 mars au 1er avril, le carnet en question indique 18 chemises, dont une de baignoire, et oui, on se baigne pas tout à fait nu au tout début du 19e siècle, et 2 fois plus de mouchoirs. 87 ont été remis à la blanchisseuse le 9 janvier et 117 le 18 janvier. Je sais pas ce qu'on fait de tous ces mouchoirs. Dans les tiroirs s'entassent aussi 158 paires de bas blancs ou roses qui tiennent tout seuls, comme le fait remarquer fièrement l'une des dames. Alors, passons aux robes, parce que c'est ça qui fait tourner la tête, bien entendu. La garde-robe de la Malmaison en contient 660 16, sans parler de 202 robes d'intérieur en batiste et en mousseline. Le blanc domine dans cette garde-robe impériale, mais on y trouve aussi des velours vert naissant, amarante, nacara, cannelé bleu, en satin lamé, à motif de cachemire, à rayures avec fleurs et façon cachemire, et puis des robes de dentelle, de point d'Angleterre, des habits cosaques et polonais, des redingotes de velours gros vert et de satin blanc gansé de zibeline, enfin... la plus inouïe, la plus riche des garde-robes imaginables. Tous les jours, en fin de matinée, Joséphine a l'habitude de recevoir bonnetière, dentelière, blanchisseuse, parfumeur, apprêteuse de bas, teinturier dégraisseur, couturières à corset ou en robe, repriseuse, brodeuse, cordonnier, bottier. Ah oui, parce que je vous ai pas parlé des paires de souliers, mais alors là c'est inouï. Rien que pour l'année 1809, ce ne sont pas moins de 524 paires de chaussures qui ont été commandées pour Joséphine. Mais il lui en restait 265 paires jamais encore portées des exercices précédents. Donc ça laisse un peu de marge, évidemment. Et je ne vous dis rien des chapeaux, des châles, des foulards par centaines, des gants. Les glands blancs, Sa Majesté les commande à raison de 6 douzaines à la fois. Et aux dernières nouvelles, il semblerait qu'elle en possède déjà 980 paires. Quand je pense qu'on a reproché leurs dépenses à Evita Perón ou à Imelda Marcos, comparé à Joséphine, ce sont des pauvresses. Même Jackie Kennedy est séché sur place. Alors je vous ferai grâce aujourd'hui des cuisines et des garde-manger. Sachez seulement qu'ordinairement, pour un déjeuner de 10 couverts en semaine, on prépare à la Malmaison un potage, 4 hors d'œuvre, 2 relevés, 6 entrées, 2 rôtis, 6 entremets, 6 desserts. Et tout cela tenu chaud, car c'est une obsession de l'impératrice grâce à tout un système de chauffe-plat et de vaisseaux réchauffoirs qui fonctionne à l'esprit de vin bouillant. Évidemment, les assiettes sont en argent et en vermeil. Seuls les desserts sont servis dans de la porcelaine de Sèvres marquée au chiffre JB. Lorsque l'impératrice sort de table, me disait une des dames qui menait la visite à la Malmaison, toutes les personnes se retournent et s'avancent d'un pas comme les sous-officiers à la parade. Et il leur est présenté un bol bleu qui contient lui-même un autre bol de porcelaine, le tout sur un plateau avec une serviette et un demi-citron. Le bol de porcelaine contient l'eau avec laquelle on se rince légèrement la bouche. Le bol bleu sert à se laver le bout des doigts. Comment l'impératrice occupe-t-elle ses après-midi, on dit ses après-dîners? Eh bien, à la broderie, au billard, à la lecture, ce sont des lectrices qui lisent, pas l'impératrice elle-même, et puis bien sûr à la promenade. Promenade en calèche, dès que le temps le permet, un piqueur en avant de la voiture, un écuyer de service à la portière, l'officier des guides à l'autre, un page à l'arrière suivi d'un officier de cavalerie et fouette cochée à travers le bois de Boulogne de préférence jusqu'à Passy, jusqu'à Chaillot. On a eu, me dit-on, des nouvelles du voyage à Genève de l'impératrice. Voici ce qu'en rapporte mademoiselle Ducret, qui est la nièce de madame de Genlis et qui se trouve être sur place. Elle en aurait d'ailleurs profité pour solliciter une place de dame du palais auprès de l'impératrice. On avait orné une barque pour l'impératrice, écrit-elle. Elle était traînée par deux cygnes. Toutes les autres se pressaient autour de la sienne. On voulut les faire éloigner, mais Sa Majesté ordonna de les laisser s'approcher. Je suis bien aise, disait-elle, que l'on voit à quel point je suis enthousiaste de ce qui m'entoure et combien je suis heureuse de la manière dont je suis reçue ici. Il est si consolant d'être aimée. On se répétait ces paroles et mille cris de « Vive l'impératrice! Vive le vice-roi !» assuraient qu'en effet, elle devait bien être consolée.
Franck Ferrand nous parle de Joséphine de Beauharnais et de son incroyable train de vie. Et
c'est l'incroyable toucher du violoniste Corey Cherovzek qu'on entend là. C'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire à mon avis. Alors, si j'en crois ce qu'on m'a dit à la Malmaison, le dîner est servi à 6 heures tous les jours, figurez-vous. Vous pouvez imaginer ce dîner d'après ce que je vous ai dit du déjeuner, parce que le décorum est nettement plus développé. Et notamment, on admire sur la table, vous savez, ces grandes nefs de vermeil décorées d'abeilles et d'étoiles qui font la fierté de la Malmaison. Pour Joséphine, ce dîner se termine par un thé qu'elle prend donc elle au sortir de table, pas l'après-midi comme les Anglais, vous voyez. Il arrive qu'on joue assez souvent, à vrai dire, avant d'aller se coucher. La préférence de l'impératrice va à la Macédoine. Alors, je suis allé chercher un peu pour savoir ce que c'était que ce jeu de la Macédoine, mais je vous avoue que j'ai pas été capable d'en comprendre les règles. Bon, on joue aussi beaucoup au 21 autour d'elle, un jeu qui mêle les cartes et les dés. À minuit commence la dernière toilette de la journée, à peine moins détaillée, moins cérémonieuse que la première. Ainsi va, dans un luxe étourdissant et une routine dont il faut bien dire qu'elle est assez délétère, ainsi va l'existence de l'impératrice douairière Joséphine, duchesse de Navarre. Voilà ce que nous dit Constant, vous savez, qui a beaucoup écrit sur elle, bien entendu, et qui nous en apprend pas mal sur son intérieur et sur sa vie quotidienne. Elle était, dit-il, bonne à l'excès, sensible au-delà de toute expression, généreuse jusqu'à la prodigalité. C'est vrai qu'autour d'elle, on a constamment des gens qui viennent demander l'aumône, des secours, toutes sortes de recommandations. Si vous avez la chance d'être originaire de la Martinique ou des îles, comme on dit, alors là, vous serez très bien reçu à coup sûr. Les membres de l'ancienne noblesse aussi, ceux de l'ancien régime, sont assez bien vus, ce qui n'empêche pas Joséphine de rester fidèle à certaines de ses fougues révolutionnaires. On la verra notamment pensionner Madame Collot-d'Herbois, par exemple. Elle est avant tout passionnée par les arts. C'est elle qui soutient les musiciens, les peintres, les graveurs, les sculpteurs, qui sont une véritable cour autour d'elle. Les 5 dernières années de son règne effectif, on estime qu'elle aura distribué plus d'1 million de francs en gratifications diverses. Il faut dire qu'elle touche 5 fois plus en dotation pour ses dépenses personnelles. Rien que pour les robes, c'est quand même 6 millions de francs pour 6 ans. Vous voyez un petit peu. On imagine quelle fortune son marchand d'étoffes préféré a pu faire sur le dos des Français. Il s'appelle Le Roy, ce monsieur. Et un jour, on dit que l'empereur, tellement énervé de payer les notes, l'a carrément attrapé au collet, vous voyez, et l'a plaqué contre un mur. Mais enfin, ça, c'était un petit moment désagréable à passer. Quand on gagne des millions, c'est pas tellement dérangeant, j'imagine. Napoléon dira d'ailleurs à Sainte-Hélène, elle donnait. Il parle de son épouse, il parle de Joséphine. Mais se serait-elle privée de quelque chose pour donner, demande-t-il? Non. Aurait-elle fait un sacrifice pour aider quelqu'un? Voilà la vraie bonté. Elle donnait, mais elle puisait dans le sac. C'est pas très gentil de la part de Napoléon, mais c'est sans doute pas entièrement faux, comme assez souvent lorsqu'on cite ce grand personnage. Alors quand vous vous promenez à la Malmaison, profitant donc de ce voyage en Suisse de la maîtresse des lieux, ce qu'il y a de plus fabuleux, ce sont les bijoux, bien entendu. Alors attention, je ne parle pas là des joyaux de la couronne que l'impératrice porte dans les grandes occasions, mais qui ne lui sont que prêtés pour la circonstance. Je parle de ses bijoux à elle, à ses inégaux d'ailleurs, qu'elle commande à titre privé et qui eux aussi finissent par coûter cher. On m'a dit qu'au moment des étrennes vers le premier de l'an, sa chambre ressemblait véritablement à une boutique de luxe. Elle possédait, si j'en crois l'inventaire après décès. Elle possède une bonne 20aine de parures en rubis, en émeraude, en saphir, en rubis du Brésil. La parure comprend généralement un ensemble de boucles d'oreilles, colliers et bandeaux auxquels s'ajoutent à l'occasion plaques de ceinture, bracelets simples ou doubles. L'impératrice en possède une en opale avec bandeaux, colliers, 2 paires de boucles d'oreilles. Bijou assez surprenant car l'opale est une pierre de malheur pour les superstitieuses et Joséphine est superstitieuse. Mais il faut croire qu'elle ne croit pas au malheur de l'opale. Elle a beaucoup de colliers de perles surtout. Il y en a une dizaine, de 1 à 4 rangs chacun, sans compter les colliers de perles noires. Les perles fines forment, on peut dire, la base d'un grand nombre des bijoux qu'elle porte. Les boucles d'oreilles, par exemple, se composent presque toujours de perles disposées d'une façon ou d'une autre. Et lorsque Joséphine est devenue impératrice, on raconte qu'elle avait acheté un collier de perles qui avait appartenu autrefois à la reine Marie-Antoinette pour 250 000 francs. Dans sa collection, elle peut se vanter, notre Joséphine, de posséder un très long collier de 361 perles, c'est le plus long connu au monde. Il pèse environ 250 grammes pour une valeur, bien entendu, de 54 000 francs or. Voici ce que Joséphine a dit un jour à Bourrienne. « Que voulez-vous? Est-ce ma faute à moi ?» elle a dit. « On m'apporte de belles choses, on me les montre, on les vante devant moi. Alors je les achète, on ne me demande d'ailleurs pas d'argent. Et puis un jour on me réclame le paiement, quand je n'en ai plus. » d'argent. Après cela, ça va à ses oreilles, il se met en colère. Vous avez bien compris qui est ce « il » qui se met de temps en temps en colère. Vous comprendrez les rumeurs qui circulent sur les dettes accumulées par la duchesse de Navarre. Au début de l'année 1809, Joséphine a pourtant pris de sages résolutions d'économie. À son tapissier, elle va déclarer « Écoutez, je vous en prie, mon cher monsieur Boulard, de la simplicité. Faites-moi plaisir autant qu'à l'empereur. De la simplicité. Mettez-moi de l'uni, pourquoi pas. Surtout dans ma chambre à coucher. Tenez, j'aime mieux vous donner 10 000 francs de plus et qu'elle soit un peu plus simple. » On ne se refait pas, n'est-ce pas? Alors notre promenade à Malmaison s'achève. Je ne voudrais pas Quittez ces lieux enchanteurs sans vous parler un peu des extérieurs. Il est une couronne que Joséphine ne doit qu'à elle-même et c'est la guirlande des roses que sa passion pour les fleurs et les plantes lui inspira d'acclimater dans les jardins de Malmaison, nous dit un chroniqueur. Du parc, elle a fait un véritable paradis botanique. Sur son ordre, les essences les plus rares enrichissent les bosquets. Partisane des jardins à l'anglaise, elle aime les allées sinueuses qui serpentent sous les frondaisons. Elle veut que le décor végétal soit sans cesse animé par la présence de bêtes familières qui évolue sous ses yeux et dont elle se plaît à suivre les ébats. Cygnes noirs venus à grands frais de la Nouvelle-Hollande, ibis et flamants roses, gazelles et biches apprivoisées, troupeaux de mérinos importés d'Espagne, sans parler des splendides vaches laitières suisses dont s'enorgueillit la ferme. De la ferme, de la bergerie, voire même de la serre chaude, il ne reste rien aujourd'hui, malheureusement. Enfin, il en reste quelques vestiges, néanmoins. Et pour ce qui est de la serre, il faut imaginer ce que cette petite Malmaison. Imaginez une immense serre tropicale avec les espèces les plus rares, les plus inouïes pour l'époque. Et au milieu de cette serre, une maison. Et quand je dis une maison, une très belle enfilade de grands salons avec des marqueteries à perdre la tête. Tout ça au milieu de la serre, ce qui vous donne l'impression en pleine Île-de-France de vous trouver dans les îles là-bas, dans cette Martinique qu'elle n'aura jamais oublié. Personne n'a rendu plus délicat et vibrant hommage à Joséphine Botaniste que Ventenat lui-même dans sa dédicace que voici. « Madame, vous avez pensé que le goût des fleurs ne devait pas être une étude stérile. Vous avez réuni sous vos yeux les plantes les plus rares du sol français. »
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'impératrice Joséphine.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Joséphine de Beauharnais.
Alors si l'on met à part Philippe Séguy, qui est avec nous dans ce studio, l'un de ceux qui auront le mieux écrit à propos de l'impératrice Joséphine reste le grand historiographe, le tardif chroniqueur du Premier Empire, Octave Aubry, bien entendu. Voilà ce que nous dit Octave Aubry de la fin de la Dame de la Malmaison. Elle se porte bien, nous dit-il, pour ce qui est de ces derniers mois. Elle demeure coquette, entêtée de parure, elle engraisse. Les désastres de Russie viennent troubler cette paisible existence et comme Eugène semble se relâcher de sa fidélité vis-à-vis de Napoléon. Le caractère de Gênes fut toujours médiocre, dit Octave Aubry en parlant du fils de l'impératrice. Elle insiste auprès de lui pour qu'il écoute moins ses intérêts que son devoir. Cependant, et c'est un trait déplaisant de cette âme diverse, quand l'empereur a abdiqué après la campagne de France et la prise de Paris, elle accueille avec un empressement excessif les visites du tsar Alexandre et du roi de Prusse. Pour obtenir des souverains alliés un règlement avantageux de leur sort et de celui de Gênes, elle leur témoigne un luxe d'égard qui convient mal à l'ex-impératrice des Français, estime-t-il. Le 23 mai 1814, ayant reçu à dîner le roi de Prusse, elle se promène avec lui vêtue d'une robe trop légère dans le parc de Malmaison. Elle prend froid, doit s'aliter. Le tsar lui envoie son propre médecin, mais la pneumonie triomphe d'un organisme débilité. Le 29 mai, jour de la Pentecôte, elle s'éteint et c'est à l'île d'Elbe que Napoléon apprendra sa mort. « Pauvre Joséphine, murmure-t-il alors. » Elle est bien heureuse maintenant. Après Waterloo, quand il se réfugie à Malmaison, son souvenir l'enveloppe d'une amère douceur et il dit à Hortense, donc à la fille, « Je ne puis m'accoutumer à habiter ce lieu sans elle. Il me semble toujours la voir sortir d'une allée et cueillir une de ces roses qu'elle aimait tant. » Et il ajoute après un moment de silence, « Nous n'avons jamais eu qu'un sujet de querelle et c'était ses dettes et je l'ai assez grondée pour cela. Elle était femme dans toute la force du terme, mobile, vive et le cœur le meilleur. » Avant de partir pour Rochefort, ou plutôt pour Sainte-Hélène, ça il ne le sait pas encore, quand déjà il a dit adieu à sa mère, à son frère, à ses derniers et si rares amis, nous dit Octave Aubry, il va dire un suprême adieu à Joséphine, faisant signe qu'il veut être seul, il monte le petit escalier dérobé qui a tant connu son pas vers la chambre de Joséphine. Il demeure un long moment, porte close, dans cette pièce encore pleine du parfum de la créole. Les plus chères images de sa vie ont dû alors repasser devant ses yeux. Peut-être s'est-il penché vers cette nef supportée par deux cygnes, cette couche où est morte celle par qui il a connu un amour si fiévreux, si angoissé, si jaloux. Certes, parmi les femmes qui ont passé dans sa vie, Joséphine tient une place unique, incomparable, parce que Joséphine a été l'amour de sa jeunesse, elle a été le grand amour de sa vie, elle lui a fait connaître l'inquiétude, le désespoir. Hélas, ce sont d'impérissables liens. Il garda d'elle un souvenir délicat, À Sainte-Hélène, dans la misère de son exil, il en parlait souvent avec une voix qui devenait plus basse, comme s'il avait craint d'effrayer le doux fantôme qui reparaissait à ses yeux. Je m'étais élevé avec elle. Et puis, c'était une vraie femme, celle que j'avais choisie. Elle était pleine de grâce pour se mettre au lit, pour s'habiller. J'aurais voulu qu'un Alban la vît pour la dessiner. Je puis dire que c'est la femme que j'ai tout simplement le plus aimée. Bonjour Philippe Séguy, cette Joséphine absolument impérissable, vous la faites revivre à travers son journal imaginaire qui paraît chez Flammarion, journal de Joséphine B. Impératrice. On voit que la particule est passée à la trappe et on va comprendre dans un instant pour quelle raison.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire des secrets de Joséphine avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Philippe Séguy, historien et journaliste, grand reporter à Point de Vue, auteur du journal de Joséphine B. Impératrice aux éditions Flammarion.
Monsieur Ferrand, me dit Fabrice, je ne conteste pas l'intérêt que peut présenter l'impératrice Joséphine, mais pourquoi avoir choisi d'ignorer en ce jour de 60e anniversaire la bataille de Dien Bien Phu ? Mais nous n'avions rien ignoré du tout, cher Fabrice. Vous savez qu'ici, nous avons l'habitude de ne pas faire les anniversaires le jour même, on essaie de ne pas parler de la même chose que les autres. Simplement, nous avons bien sûr évoqué cet anniversaire de Dien Bien Phu. Alors, vous trouverez une émission complète et entière sur Dien Bien Phu avec Michel de Gégère et Patrick de Gmeline. L'émission a eu lieu le 16 décembre 2013, le 16 décembre dernier, donc il est très facile de la retrouver dans la partie archive sur le site internet d'Europe 1. Donc vous allez sur Europe 1, vous allez au cœur de l'histoire, vous allez voir archive, et là vous allez au 16 décembre 2013, vous entendrez parler de Dien Bien Phu bien sûr, et puis nous avons reparlé de Dien Bien Phu le 11 mars dernier. Ça c'est une émission que je ne suis pas prêt d'oublier car elle était particulièrement belle, avec Jacques Chancel qui nous a raconté ses souvenirs de correspondant de guerre en Indochine. Alors aujourd'hui, c'est certes l'anniversaire de cette catastrophe de Dien Bien Phu, de la chute de Dien Bien Phu, mais nous parlons-nous d'un autre anniversaire qui va intervenir dans quelques semaines, celui de la mort de l'impératrice Joséphine, qui est morte d'un coup de froid pour s'être montrée trop gentille avec l'occupant, nous dit Octave Aubry. C'est vrai ça, Philippe Séguy ?
C'est vrai. La toute petite erreur que fait Monsieur Aubry, c'est que ce n'est pas le roi de Prusse avec lequel elle se promène.
C'est le tsar, en fait.
C'est le tsar,
oui, c'est ça.
Exactement.
Oui.
Joséphine est une femme, comme vous l'avez dit, extrêmement coquette, extrêmement séductrice, et elle sait que le tsar veut la visiter à nouveau dans le parc de la Malmaison, à la Malmaison. Donc elle se précipite et elle demande à ses dames d'honneur et d'atour sa plus jolie robe, et sa plus jolie robe est bien évidemment décolletée.
La plus jolie des 676.
Exactement, qu'elle portait par année, parce qu'elle donnait énormément, d'où ces chiffres évidemment qui sont vertigineux, il s'agit simplement de faire travailler les soieries lyonnaises,
bien sûr, hein,
c'est une volonté de l'empereur, ça c'est très très important. Bref, donc elle se promène avec le tsar, elle lui fait les honneurs du parc, la nuit commence à tomber et la malheureuse évidemment a déjà pris froid précédemment.
C'est ce qui est en train de vous arriver à vous,
c'est
aussi.
C'est exactement ça, et malheureusement j'ai l'impression que c'est un petit peu un virus qu'on va éradiquer le plus vite possible, virgule. Donc la chère impératrice prend froid, elle souffre déjà d'une congestion pulmonaire et elle va mourir quelques jours plus tard.
Alors cette Joséphine meurt, on va dire, elle s'éteint. Et ce qui est très étonnant, c'est que on est donc il y a 200 ans en pleine occupation des Alliés qui se sont installés à Paris en 1814. Alors c'est une occupation moins dure que celle de l'année suivante en 1815, mais enfin tout de même. Et bizarrement, tout le monde va pleurer Joséphine. Bien sûr, tous ceux qui sont nostalgiques de l'Empire en train de s'effondrer. Mais aussi, on trouve des partisans, si je puis dire, de Joséphine, jusque dans la cour du nouveau roi Louis XVIII, en fait.
Et on en trouve d'autant plus que dans la tradition monarchiste, même si, en effet, Louis XVIII est rentré en France et monté sur le trône, en fait, la monarchie française, le courant monarchiste, va en quelque sorte récupérer l'impératrice. Et on en fait, très étrangement, une sorte de martyr de l'Empire.
Oui, comme si elle avait été un petit peu l'otage de Napoléon.
C'est exactement ça. On la présente comme l'otage de l'ogre de Corse, de celui qu'on appelle que le général Bonaparte dans les milieux royalistes. Et on la présente comme ce qu'elle a été aussi, c'est-à-dire celle qui a volé au secours de tous les membres de l'aristocratie. Je pense par exemple à son ami Mathieu de Montmorency, qui avait trempé dans l'affaire Cadoudal. Donc on essaie véritablement de montrer Joséphine comme celle qui a été l'otage, en effet, de l'empereur contre son progrès, ce qui est quand même assez extravagant quand
alors,
on y pense.
On va revenir, on va refaire sa vie, hein, si je puis dire, et on va revenir sur ses propres origines
gentiment aristocratique. On n'est pas dans la très haute noblesse du tout. Mais en tout cas, on va venir aussi sur les liens assez étranges qu'elle entretenait avec cette ancienne aristocratie de l'ancien régime, bien qu'ayant été elle-même très révolutionnaire, on va le voir aussi. Avant ça, Philippe Séguy, j'aimerais que vous me disiez si, en préparant cet ouvrage, en vous mettant à sa place, parce que ça c'est passionnant comme exercice, hein, d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête du personnage et de parler à sa place et d'écrire son journal. Est-ce qu'en préparant tout ça, c'est un travail dont je pense que le public n'a pas idée, hein, c'est un travail colossal, c'est un travail de fourmi, non mais il faut le dire.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous avez découvert des choses qu'on ne savait pas, d'une certaine manière, des scoops, allez des scoops.
Écoutez, moi ce que j'ai surtout découvert, c'est une autre idée peut-être, une autre de l'impératrice Joséphine. En fait, on la présente, et on n'a pas tort, comme une femme qui aime le beau, qui aime la mode, qui aime les plaisirs, mais c'est aussi une femme de tête. Celle que l'empereur appelait son agenda, celle qui est une femme de réseau. Par exemple, Joséphine est franc-maçonne. Joséphine correspond avec tout ce qui compte de savant. Elle a par exemple une passion pour la botanique. Mais c'est aussi une femme qui peut conseiller, celle qu'elle appellera toute sa vie Bonaparte. Et celle qu'elle ose tutoyer.
Même quand il est empereur, elle continue à lui dire « Bon, allez,
exactement.
Bonaparte, dépêchons-nous. »
Alors, voilà. Alors ce qui est assez amusant, c'est que lorsqu'ils sont dans leur privé, elle l'appelle Bonaparte. Lorsqu'ils vont commencer, évidemment, à entrer dans une période de crise, devant les courtisans, il va lui dire « Madame, cessez de m'importuner de la sorte. » Elle va répondre « Je vois bien que je dérange votre majesté impériale. » Donc tout cela, évidemment, a un ton de théâtre. Mais dès qu'on entre dans l'intimité, il va la déranger à sa coiffeuse, il la dérange dans sa parure, il la dérange dans sa coiffure, et elle lui dit sans arrêt « Mais cesse, Bonaparte, cesse donc !» On est loin, en quelque sorte, à ce moment-là, des fastes impériales. C'est aussi une femme qui a la prescience de la politique. Elle va déconseiller, par exemple, à l'empereur de monter sur le trône, de créer l'empire. Elle le déconseillera dans l'affaire, par exemple, du duc d'Enghien. Elle se traîne à ses genoux pour essayer justement de faire en sorte d'épargner le prince. Et elle a l'amitié des femmes. C'est ça qui est tout aussi exceptionnel chez Joséphine. Elle a des amitiés extrêmement durables. Elle a celle de Madame Tallien, elle a celle de Madame Hamelin dans la période directoriale, et elle a aussi, par exemple, des amitiés de princes, de princesses et de souverains. On l'a vu, par exemple, avec le tsar Alexandre. C'est tout sauf une frivole. C'est
oui,
aussi
c'est
une femme de tête.
C'est pas seulement le petit oiseau des îles.
Exactement.
Hein.
C'est ça que j'ai vraiment essayé de montrer dans ce texte, qui est un roman, évidemment, mais de prouver justement que l'impératrice est aussi une politique et quelqu'un justement qui est capable d'apporter sa pierre à l'édifice de la France.
Avec de vraies fidélités, avec
Exactement.
Une vision incontestable,
Exactement.
Qui peut peut-être expliquer l'image qu'elle a conservée d'une sorte de talisman. On a pensé longtemps que tant qu'elle avait été aux côtés de l'empereur, il avait connu des succès invraisemblables. Le jour où il divorce, tout commence à aller mal. C'est vrai quand même.
Exactement. Elle lui porte chance. Et les soldats qu'il appelle la vieille, autant d'ailleurs que la famille...
Elle était nettement plus âgée que lui.
Elle
hein,
est plus âgée. Elle se rajeunira d'ailleurs au moment de son mariage, et Bonaparte, par gentillesse, se vieillira, n'est-ce pas ? Mais ils ont plusieurs années d'écart. Et ces grognards qui l'appellent la vieille savent, sentent que l'impératrice porte chance finalement à l'empereur. Or on le voit au moment de la répudiation, au moment du mariage avec l'impératrice Marie-Louise, la chance tourne et l'empire malheureusement ira à sa fin.
Alors elle a autour d'elle une cour incroyable. J'ai parlé des artistes, notamment de tous ces peintres troubadours hein, qui vont créer un véritable style, un véritable genre autour d'elle. Ce qui prouve entre parenthèses qu'elle avait la passion de l'histoire puisqu'elle aimait toutes ces scènes historiques, etc. Elle avait une culture, notamment sur les monuments, sur le patrimoine, infiniment plus étendue que ce qu'on pourrait imaginer. Alors je disais qu'elle ne lisait pas. Elle trouvait que c'était très fatigant pour les yeux. Je pense qu'elle devait avoir un problème aux yeux, probablement. Oui. En tout cas, elle se faisait lire
Exactement.
Énormément
et
d'ouvrages.
Ce qui est assez triste, c'est que certaines de ses lectrices seront les maîtresses de son mari. Mais elle ne leur en veut pas. Et quand on parle de la bonté de l'impératrice, elle est réelle. Elle n'est pas supposée. Et elle donne.
Elle est très prodigue, de tout. Alors, il y a cette phrase terrible que je me suis permis de lire tout à l'heure parce que je la trouve assez forte en même temps, sans doute assez vraie. Mm-hmm. Quand Napoléon dit « Ah, c'était facile de donner puisqu'elle puisait dans la caisse, elle ne s'est jamais sacrifiée pour donner. » On a vu des moments dans sa vie, on va y venir tout à l'heure, où elle a été capable de se sacrifier néanmoins, en tout cas d'une certaine manière. Sa vie n'a pas toujours été aussi facile
c'est
et aussi rose, finalement.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, il y a cette cour donc d'artistes, cette cour de botanistes et de scientifique, ce qu'il ne faut jamais oublier, mais il y a aussi toute la cour, j'ai envie de dire, familiale, parce qu'elle est celle qui marie les gens. Hein. Elle en a composé des familles. Hein.
Absolument. Et on peut la considérer d'ailleurs aujourd'hui encore comme la grand-mère de l'Europe. La quasi-totalité des cours européennes descendent de l'impératrice, exactement de son fils Eugène,
voilà,
vice-roi d'Italie, qui sera marié avec la princesse Auguste de Bavière, qui auront une plétitude d'enfants et qui seront tous admirablement bien mariés.
Oui, et elle est là, elle veille à tout ça.
Et c'est une excellente grand-mère, mais comme ça a été une excellente maman.
Ce qui est curieux, c'est que chez cette marieuse, on ne trouve ni la vulgarité d'une Célestine, ni l'autorité d'une matrone, en quelque sorte. On a l'impression que tout se fait toujours en douceur et avec le sourire.
Et le charme, l'extraordinaire charme de l'impératrice. Et les yeux légèrement mouillés de larmes, comme on dit à l'époque. Elle pleure beaucoup, Joséphine. Elle pleure parce qu'elle est trompée. Elle pleure parce qu'elle voit le temps passer. Elle pleure parce qu'elle voit sa beauté, malheureusement, glisser dans les années. Elle pleure et elle obtient. Plus elle pleure et plus elle obtient. Donc évidemment, elle a cette grâce supplémentaire de battre des paupières et l'empereur craque.
Ah, la grâce lacrymale de l'impératrice.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Écris-moi, Joséphine, apaise mon chagrin. Ton absence est un cri brûlant, un poignard dans mes reins. Si tu as besoin d'argent, fais-en part à mon frère. Il porte 200 louis pour toi. Tu ne m'as pas parlé de tes affaires. Dieu, que c'est loin, Paris. Est-ce bien vrai, Murat m'écrit, que tu ne viendras pas, que tu es enceinte d'un tout petit soldat. Je ne verrai donc pas.
Serge Lama sur Europe 1, un extrait de Lettre à Joséphine.
Et oui, alors vous savez que je vais en profiter pour le dire, ça, Céline, cet extraordinaire spectacle qu'avait monté Serge Lama sur la musique d'Yves Gilbert il y a 30 ans de ça maintenant, est repris. Nous avions invité d'ailleurs le producteur du spectacle dans cette même émission, hein, il s'appelle Fabien Ramade, et là, très bientôt, le samedi 17 mai, le 17 mai à 21h, dans le théâtre antique d'Orange, on va pouvoir assister à cette extraordinaire représentation avec l'orchestre philharmonique Bellarté, 80 musiciens, 130 choristes, et puis Michael Gage, Régis Mungus, Gilles Morvan, Marjorie Orial qui vont interpréter les différents rôles de cet oratorio, on pourrait dire, où bien entendu, on peut dire que Joséphine se taille la part de la lionne d'une certaine manière. Alors puisqu'on parle d'événements, j'en profite. Je voulais vous dire aussi que le 23 mai prochain, vendredi 23 mai, Dimitri Casali donnera son opéra rock Napoléon à Troyes. Donc on pourra voir cet opéra rock à Troyes. Et puis bien sûr, il y a ces deux extraordinaires expositions qu'on peut visiter jusqu'à la fin du mois de juin. Il y a l'exposition dont je suis en train de feuilleter en ce moment même le catalogue qui se tient à la Malmaison elle-même, hein, jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis il y a également l'exposition de Laurent qui se tient au Luxembourg jusqu'au 29 juin. Vous avez vu les deux expos, vous,
bien
Philippe?
bien sûr, moi je vais à la Malmaison en pèlerinage, c'est un endroit exceptionnel et je recommande véritablement chaleureusement à tous les auditeurs. Le parc de la Malmaison est un enchantement,
et aussi bien dans l'expo de la Malmaison que dans celle du musée du Luxembourg, on a cette atmosphère particulière, il y a ce climat,
voilà, Et vous avez par exemple au musée du Luxembourg une Joséphine, je dirais, intime. Le roi de Suède, Sa Majesté Carl XVI Gustave, a prêté 4 objets venant justement de son aïeule Joséphine, la reine de Suède, qui était elle-même la petite fille de l'impératrice. Et parmi ces objets, vous avez des nécessaires de couture, vous avez un métier à tisser, vous avez une pochette de soie dans laquelle elle mettait justement ses ouvrages. Et on voit cet extraordinaire raffinement. Et pour un seul exemple, cet étonnant nécessaire de toilette, de dizaines et de dizaines et de dizaines de pièces en or, en vermeil, en ivoire. C'est un nécessaire de couture, c'est un nécessaire de beauté. Et c'est une pièce exceptionnelle qui montre le raffinement de la cour des Tuileries.
Alors ce raffinement, cette générosité, cette douceur, d'où viennent-elles chez Joséphine? On a envie de dire de la Martinique, du beau climat des îles, non?
C'est exactement ça. En fait, elle était extrêmement attachée à son île natale, de ces fameux trois îlets, là où elle est née, là où elle a grandi, dans une insouciance, dans une liberté extraordinaire, avec un père et une mère extrêmement aimants, ce qui est assez rare à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est une jeune femme libre. Et d'ailleurs, les méchants anglais, si vous me passez la formule, la perfide Albion, diront des horreurs sur l'impératrice, allant jusqu'à dire qu'elle se prostituait, je cite, avec des nègres. Quelle horreur! Alors qu'évidemment, tout cela est archi faux, bien sûr.
Elle n'était pas destinée à épouser Alexandre de Beauharnais. C'était sa sœur au départ.
C'était sa sœur aînée.
Marie-Catherine.
Marie-Catherine. Marie-Catherine meurt malheureusement d'une pneumonie et sa tante, Madame de Renaudin, dit à Clantienne, on a promis l'aînée, on prendra la cadette. Et ce cher Alexandre de Beauharnais, qui, si vous me passez encore une fois la formule, est une véritable tête à claque, épouse Joséphine, qu'il n'aime pas. Il la méprise. La pauvre chérie a été simplement l'élève des dames de la charité. Elle a absolument rien appris, à part un peu de lecture et de calcul. Et lui se targue d'avoir une véritable culture. Donc dès que la pauvrette ouvre la bouche, c'est pour avoir en rafale toutes les moqueries de son mari.
Oui.
Donc au bout d'un certain temps, elle en a assez, d'autant plus qu'il la trompe, mais d'une façon éhontée, avec toutes les jolies femmes de l'époque.
Alors vous commencez votre journal sous la Révolution.
Bien sûr.
Pour quelle raison?
Parce que Joséphine, par le hasard, va connaître la même prison que son mari, dont elle est séparée depuis quelques années, c'est-à-dire la terrible prison des Carmes, prison qui est faite dans l'ancien couvent des Carmes, dans lequel elle rencontre justement Madame Tallien, avec lequel elle sera très liée. Et ce couple,
ça, vous l'aviez déjà raconté dans Stanislas ou Un caprice de Joséphine.
Vous avez bonne mémoire,
Franck Ferrand,
merci.
Qui était le précédent roman.
Exactement.
Et on la voyait dans cette prison avec ce personnage de Stanislas.
Avec ce personnage que je reprends d'ailleurs dans ce roman.
Qui réapparaît là.
Qui reparaît de temps en temps. Et Joséphine pourra parler à Alexandre de cette accusation épouvantable. Alexandre lui reproche son infidélité, ce qui est quand même un peu fort de café, et ose prétendre que sa fille Hortense n'est pas de lui. Et elle lui dira au Carme, comment avez-vous pu imaginer quelque chose aussi monstrueux. Donc il aura ce mot qui est très joli et certainement apocryphe. Il est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. Il monte à l'échafaud et juste avant, il lui dira, madame, permettez-moi pour la première fois de passer avant vous.
Ah oui, parce que l'exécuteur a appelé comme les condamnés. Il a dit Beauharnais, sans préciser.
Sans préciser. Ah oui. Alors je pense que l'histoire n'est pas réelle.
Non, mais elle est belle.
Mais elle est jolie, absolument. Ouais. Et en fait, lorsqu'on appellera la ci-devant Beauharnais à l'échafaud, Joséphine s'évanouit et des personnages justement se précipitent, la masque de leur corps, Joséphine est sauvée. Voilà.
C'est votre période préférée qu'elle va vivre là. D'ailleurs, ça tombe bien, si je puis dire.
Absolument.
C'est d'ailleurs, c'est le directoire. Hein, c'est
sûr.
Cette chute après Thermidor. Donc, il y a cette espèce de période assez étrange. D'ailleurs, ouais. On est encore dans la Révolution française, mais on n'est plus du tout dans les excès de la Terreur.
Exactement. C'est une période très brève. Moins de 5 ans. C'est une période de tous les excès, de tous les plaisirs, de tous les bonheurs.
On rattrape le temps perdu, en fait.
On rattrape le temps perdu. On a eu peur de la mort. Donc, on est libre, on peut danser, la danse évidemment est extrêmement populaire à l'époque, il y a des balles et des balles et des balles partout à Paris,
elle est là, elle est présente aux soirées, aux balles, elle est partout.
Elle est si pauvre que dans les soirées, on la dispense d'apporter son pain. Mais en revanche, elle se fait un extraordinaire carnet d'adresses. Elle avait commencé d'ailleurs au moment de son divorce, elle était à l'abbaye de Panthémon à Paris. Elle avait connu Louise de Condé, par exemple, Bathilde d'Orléans. C'est une femme, encore une fois, je le disais tout à l'heure, de réseau et d'adresse. Donc elle se met, je dirais, dans les jolis mouchoirs de Madame Tallien et elle devient d'ailleurs une des principales vedettes de cette période du directoire. Et elle a déjà cette réputation de bonté puisque les Parisiens l'acclament quand elle passe en voiture.
Et c'est ça. Elle est déjà populaire.
Elle est déjà
d'une certaine manière. On la reconnaît, il faut dire.
On copie les modes. Si Marie-Antoinette suivait les modes, elle les lance. Donc on va porter les robes en linon, en mousseline. On va se revêtir de ces châles extraordinaires qui est, je dirais, l'atout indispensable de toutes les élégantes de l'époque.
Alors vous aimez Philippe Séguy, je l'ai constaté dans un grand nombre de vos précédents romans. Vous aimez les personnages en demi-teinte, complexes, subtils, parfois même retors. On n'a pas l'impression que ce soit le cas avec Joséphine. Elle a l'air assez lumineuse, finalement,
lumineuse.
Assez limpide.
Elle est entourée pour, par exemple, évoquer un personnage qui, lui, n'est que ombre et lumière, qui est Barras. Barras dont elle sera d'ailleurs la maîtresse. Et c'est Barras
qui...
Le directeur Barras. Et c'est Barras, d'ailleurs, qui la jettera plus ou moins pour s'en débarrasser dans les bras de Bonaparte. Un Bonaparte qu'elle appelle, selon le joli mot de la future duchesse d'Abrantès, Laure Permon, le chat botté. Elle le trouve moche, elle le trouve maigre, elle le trouve mal coiffé, elle le trouve mal habillé, et elle trouve qu'il est surtout, si vous me passez une fois de plus la formule, un très mauvais coup. Et elle va lui apprendre l'amour, elle va lui apprendre à être autre chose qu'un soudard.
Oui. Elle le civilise
elle
d'une
le
certaine
civilise,
manière.
Exactement.
Alors il va tomber fou amoureux
fou
d'elle.
Fou
c'est
d'amour.
La chanson qu'on entendait là de Serge Lama à partir de la correspondance authentique hein, du futur consul, en tout cas du général d'Italie. Il devient fou d'amour et en même temps il est parfaitement conscient de son infortune. Il sait très bien qu'elle le trompe.
Il part en Italie y faire campagne, y s'y couvrir de gloire. Et la coquine Joséphine ne veut absolument pas le suivre. Elle a l'audace d'inventer une grossesse alors qu'évidemment c'est fou. Pourquoi ? Parce qu'elle a succombé au charme d'un joli jeune homme qui s'appelle Hippolyte Charles, qui est lieutenant de Hussards, qui est d'origine provençale.
Un véritable personnage de théâtre.
C'est
lui.
Exactement ça. Et alors, il a ce don suprême de la faire rire. Et alors, elle se dit, pourquoi est-ce que j'aurais à affronter les campagnes d'Italie ?
C'est-à-dire qu'il n'est pas rigolo, le Bonaparte.
Pas vraiment, pas vraiment. Alors, il l'inonde de lettres. Il lui dit, tu ne m'aimes plus. Tu as oublié ton Bonaparte. Il meurt d'amour. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme qui est d'un génie absolu va confier ses doutes à tous les généraux qui l'entourent. Et Junot n'en peut plus d'entendre sans arrêt les plaintes de Bonaparte, qui est un collégien par rapport
alors,
à elle.
Elle continue, elle a poussé ses avantages bien entendu.
Sûr.
Elle va bientôt devenir donc l'épouse de celui qui devient premier consul, puis consul à vie, puis carrément empereur des Français, vous imaginez ça. Fait, d'ailleurs, voilà. Il va la couronner lui-même, de ses propres mains. C'est le grand et célèbre tableau de David, bien entendu.
Absolument.
Cette femme va faire la carrière de ses enfants, quand même. Hein. Eugène et Hortense jouent un rôle essentiel dans cette
vie.
C'est
une excellente mère. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est rare à l'époque qu'une femme s'occupe à ce point de ses enfants. Deux enfants. Eugène, qui est un garçon brillant, extrêmement courageux, idolâtré par son beau-père. Et Hortense, qui a, comme sa maman, la larme un peu facile. Donc Eugène épouse la princesse Auguste de Bavière. Et Hortense va se marier à Louis, futur roi de Hollande, frère cadet de l'empereur, qui n'est encore que Bonaparte. Mariage exécrable, épouvantable. Louis a un caractère épouvantable. Il soupçonne sa femme, encore une fois, de la tromper, ce qui est évidemment totalement fou. Pourquoi Joséphine a-t-elle fait en sorte que sa fille Hortense épouse Louis ? Parce qu'elle pense, en quelque sorte, un petit peu à elle, et que l'enfant qui va naître, l'enfant mâle, pourrait être le successeur de Napoléon.
Et oui, parce que c'est tout le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à lui donner d'enfant.
Voilà.
Et à partir du moment où elle est devenue impératrice, ça devient un énorme problème, car se pose une question dynastique,
absolument,
bien entendu. Alors, elle est partagée entre, d'un côté, la lassitude de tout cela, et puis en même temps, ce goût de vivre et de séduire qui la caractérise. À la date du 18 septembre 1804, voilà ce que vous écrivez. « Assurément, je n'aime pas ce palais des Tuileries où nous sommes revenus, et les maussades, tristes. Je ne puis faire ma promenade quotidienne sans être regardée comme un animal de foire que 3000 paires d'yeux dévisagent sans pudeur. À peine prendrai-je l'air au balcon, qu'en une poignée de secondes une foule s'amasse, ces bons parisiens, honnêtes pères de famille désireux de voir si leur impératrice a bonne mine aujourd'hui. Or je ne suis séparé d'eux que par une terrasse haute de 2 marches. Je préfère 1000 fois Saint-Cloud ou la Malmaison. Une route que l'on vient de tracer entre les deux résidences me permet d'être chez moi en 15 minutes. Une consolation cependant, j'ai visité avec Monsieur Darville mes écuries des Tuileries, je me suis fort diverti à regarder les lades empressées à me sourire.
C'est un paradoxe, Joséphine. Elle aime à la fois son intimité, elle aime à la fois son parc de la Malmaison, comme elle aimera d'ailleurs beaucoup le parc du château de Navarre dans l'Eure après le divorce, et en même temps, de temps en temps, le luxe sied aux jolies femmes.
Eh oui.
Et elle adore...
et particulièrement à elle, puisque voilà. Elle va comme ça lutter contre le contre l'âge, hein, il faut
bien
le dire.
Sûr,
alors bon, il y aura cet épisode épouvantable pour elle du divorce. Napoléon qui continue de l'aimer dans les larmes se sépare d'elle parce qu'il lui faut un héritier qu'il doit épouser, cette archiduchesse d'Autriche, voilà. Marie-Louise, qui va lui donner d'ailleurs l'héritier en question.
Le mot terrible de l'empereur, j'épouse un ventre.
Et voilà. Et ils vont donc devoir se séparer. Il y a cette scène magnifique, vous racontez beaucoup, hein, ce Noël 1809, et notamment cette scène à Trianon, quand ils pleurent l'un et l'autre, alors, en quelque sorte.
Et que la cour, ce qui est terrible, c'est qu'ils ne sont évidemment jamais seuls, la cour est témoin de ce chagrin partagé entre Napoléon et Joséphine.
Philippe Séguy, qui donc nous donne ce journal de Joséphine B., impératrice, c'est, vous avez sous-titré roman parce qu'il y a une part romanesque,
oui,
il y a l'apparition de Stanislas.
Oui.
Enfin, on reste quand même très fidèle
aussi
à l'histoire.
Tout à fait, hein, absolument, absolument. On est fidèle à l'histoire.
Tout ça est édité, bien sûr, chez Flammarion. Merci beaucoup, Philippe Séguy.
Merci à vous.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Florian qui voudrait savoir depuis quand les messieurs portent des cravates.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Florian. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il souhaiterait savoir depuis quand les hommes portent des cravates.
Alors, c'est un accessoire de mode, la cravate, qui, semble-t-il, est arrivé en France au XVIIe siècle dans les bagages des mercenaires croates. Et d'ailleurs, ce terme de cravate, hein, viendrait tout simplement d'une altération du nom croate. Alors, il existait des cravates bien avant ça. On en trouve quelques vestiges dans la Rome antique. On en trouve également, vous savez, dans la fameuse armée de l'empereur Qin. En Chine au 3e siècle avant notre ère. Bon, on pourrait parler de toutes sortes de cravates, mais la cravate française, si je puis dire, il faut attendre Louis XIII pour qu'elle devienne, qu'elle remplace les jabots de dentelle et autres fraises. Et c'est sous Louis XIV alors que la cravate va devenir un accessoire absolument indispensable. Louis XIV adore la cravate. D'ailleurs, il va créer un office à la cour, un office de cravatier qui est aux ordres du grand maître de la garde-robe et qui sera chargé de lui présenter chaque jour une superbe cravate. Alors, ce qu'on appelle cravate, c'est un gros foulard blanc à l'époque, hein. Pour Balzac, nouer sa cravate constitue presque un art. Vous savez que dans le traité de la cravate, il dit qu'une cravate bien mise, c'est un de ces traits de génie qui se sentent, qui s'admirent, mais ne s'analysent ni ne s'enseignent. Évidemment, la cravate, elle va beaucoup changer par la suite. Elle va devenir de plus en plus petite, de presque ridicule. Elle va devenir, alors c'est plus du tout un gros foulard en soie. Ça devient cette espèce de petite chose que vous connaissez maintenant, qui prend toute forme, toute couleur. Et depuis les années 50, il y a même des cravates maintenant à motifs. On a envie de dire horreur et damnation. Je pense que Balzac ne retrouverait pas ses cravates dans celles que nous portons aujourd'hui.